Culture vive, Yasmine Chouaki.
Une expo et une polémique, c'est le menu de cette deuxième partie de Culture Vive. Alors nous irons tout à l'heure à Beaubourg avec vous, Muriel Mahalouf.
Oui, pour découvrir l'œuvre arachnéenne, attention, de Louise Bourgeois.
Voir aux araignées quand même, je donne des petits cailloux. Et tout de suite, juste avant l'ouverture officielle prévue le 13 mars, nous allons avec vous, Elisabeth Le Quéré, prêter l'oreille aux multiples échos qui nous viennent déjà du Salon du Livre 2008. Israël, l'invité d'honneur de ce salon du livre qui va se tenir porte de Versailles du 14 au 19 mars avec les studios de RFI, un salon qui fait polémique depuis plusieurs semaines puisque des voix s'élèvent pour critiquer la décision des organisateurs de nommer Israël comme invité à l'occasion du 60e anniversaire de sa création. Une polémique qui enfle et dont vous nous rappelez les temps forts, Elisabeth, parce qu'on a un besoin d'un petit peu de pédagogie, sinon on s'y perd.
Alors en fait, Yasmine, vous venez d'expliquer ce qui a mis le feu aux poudres, c'est-à-dire pas seulement qu'Israël soit l'invité d'honneur du salon, mais qu'on rende hommage en fait aux 60 ans de la création de l'État d'Israël. Donc évidemment, tout de suite, les nations et les institutions arabes sont insurgées de ce que cet intitulé donnait d'emblée à la chose une tournure très politique. Alors, petite chronologie des faits pour un petit peu dégager les grands mouvements. Fin du mois de février, donc l'Union des écrivains palestiniens appelle au boycott et engage les maisons d'édition arabes à boycotter elle aussi le Salon du Livre. Dans la foulée, le Liban va être le premier gouvernement arabe à annoncer qu'il boycotte. L'Union des écrivains algériens annonce qu'elle boycotte. Les Égyptiens boycottent. Enfin bref, la quasi-totalité des États arabes va boycotter le Salon. Alors du côté des Israéliens, les rangs sont beaucoup plus partagés parce qu'il y a aussi des écrivains israéliens qui sont pour le boycott, entre autres le poète israélien Aaron Shabtai qui a fait entendre sa voix en disant « Je considère qu'il ne s'agit, je le cite, que d'une manifestation de propagande dans laquelle Israël va s'exposer comme un État qui a une culture en cachant qu'en ce moment même, il est en train d'accueillir de terribles crimes contre l'humanité. » Voilà. Et en face, d'autres personnes qui sont contre le boycott en expliquant que pour faire la paix, il faut se parler, notamment l'écrivain Ron Barkaï. Alors, troisième mouvement, fin février, donc l'Union juive française pour la paix décide de créer un contre-salon, l'idée étant d'inviter des intellectuels israéliens, mais aussi des palestiniens, puisque l'un des problèmes du salon est qu'il n'y aura que de la littérature en hébreu, alors qu'on sait très bien qu'en Israël, il y a de grands écrivains en langue arabe, notamment Émile Habibi. Donc, j'ai mené un petit peu l'enquête pour entendre...
Vous avez pris votre bâton de pèlerin, ça s'appelle comme ça, pour recueillir différentes voix, donc des voix israéliennes et des voix arabes autour de ce boycott.
Voilà, et justement, là, on entend qu'il n'y a pas que les Israéliens, quand même, qui pensent que le boycott est la pire des solutions. Il y a également des Arabes modérés, si j'ose dire. Donc, on peut entendre Tahar Bekri, qui est un romancier tunisien.
Évidemment, la littérature n'est pas en dehors des événements politiques mondiaux. Les écrivains, souvent, sont pris entre deux étaux. C'est un peu regrettable pour tout le monde, parce que la littérature, comme la création d'une manière générale, est faite pour rapprocher les humains, pour dialoguer. C'est un peu dommage que le livre soit pris comme otage, excusez l'expression, par les positionnements politiques, mais il n'est pas interdit d'espérer que les hommes se parlent et dialoguent entre eux. Je pense que les écrivains ne doivent pas laisser les politiques tout seuls dans ces conflits, dans ces antagonismes et surtout dans ces conflits meurtriers.
Le romancier tunisien donc Tahar Bekri sur la ligne du dialogue, un petit peu comme l'écrivain psychanalyste algérien Malek Chebel.
La meilleure manière, à mon avis, pour être libre et pour échapper à tous les diktats étatiques et autres, c'est justement de jouer le jeu de la subversion littéraire, de la subversion de l'intelligence et d'aller au salon. Ceci étant, si tel ou tel pays, pour des raisons visiblement idéologiques, n'accepte pas de venir au salon parce que l'État d'Israël veut fêter le 60e anniversaire de la naissance de l'État d'Israël, je vois un peu évidemment la signification, mais ça ne m'implique pas à titre personnel. À titre personnel, je suis auteur et j'agis selon une liberté qui m'est propre. et qui n'a aucune, d'ailleurs aucune correspondance ni aucune couleur politique. Je veux justement rester apolitique. Et demain, ce serait la Chine. On me dira, par exemple, non, c'est la Chine. La Chine ne respecte pas les droits de l'homme. Donc, les écrivains qui, comme moi, travaillent sur l'esclavage, ne doivent pas aller au Salon du Livre parce que la Chine ne respecte pas les droits de l'homme. Mais moi, je ne suis pas responsable de ce que fait la Chine.
Voilà, donc c'était en fait le point de vue de l'écrivain algérien Malek Chebel. Alors, en face de ces intellectuels arabes, des intellectuels israéliens, je disais tout à l'heure qu'il y a certains appels au boycott, mais il y a aussi des modérés. Là, on peut entendre notamment le philosophe israélien Raphaël Zaghouri Orly, qui raconte en fait que, enfin, qui explique que selon lui, ce boycott serait la pire des solutions.
Qui est plus engagé ? L'écrivain, disons, est-il plus engagé quand il dit je n'y vais pas tant que le conflit politique ou le réel politique n'est pas réglé ? Celui qui pense que l'écrivain qui se rend à une manifestation intellectuelle ou culturelle est une manifestation qui rend hommage à une littérature nationale, n'est-ce pas ? Que cet écrivain singulier n'a pas une certaine ou parfois une très grande distance, un rapport, disons, compliqué, des réserves avec la nation, la politique, la communauté de son pays, se trompe. Ils ne vont pas nécessairement en tant qu'ambassadeurs. C'est-à-dire, ils ne font pas nécessairement ce qu'on appelle, à mon avis, depuis une analyse très simpliste, le jeu de l'État. Ils y vont en tant que témoins d'une situation complexe et surtout en tant qu'écrivains, c'est-à-dire avec cette étrangèreté, avec ce doute, avec que peut éprouver un écrivain ou un intellectuel.
Voilà, donc après le philosophe Raphaël Zaghouri Orly, on peut entendre Ariel Schweitzer, qui lui est un historien israélien et qui lui aussi est contre le boycott.
Je dirais que 95% des invités israéliens au Salon du Livre, ce sont des gens de gauche, ce sont des militants pour la paix, ce sont des gens qui luttent en Israël pour la création d'un État palestinien, ce sont des gens qui luttent en Israël contre l'occupation pour donner quelques noms. Le plus connu, c'est Amos Oz, c'est David Grossman qui a perdu son fils dans la dernière guerre du Liban et qui est l'un des premiers à critiquer en Israël la politique du gouvernement israélien pendant la guerre, la deuxième guerre du Liban, et bien sûr l'un des premiers à critiquer ce qui se passe dans les territoires occupés. Donc au lieu de les encourager, de leur donner la parole, cette tentative de boycott risque de les isoler davantage. Ils sont déjà un peu isolés dans leur propre pays, alors au lieu de les donner la parole en France et de porter leur message à travers un événement très médiatique comme le Salon des Livres, on veut leur interdire de s'exprimer dans un grand événement de ce genre, et je trouve ça très très dommage.
L'historien donc Ariel Schweitzer, qui croit davantage porteur le fait de parler culture, cinéma, littérature, plutôt que politique, pour dire précisément la situation en Israël. Il est un peu dans la lignée d'auteurs majeurs comme Grossman dont il parlait, mais aussi d'auteurs émergents, comme on dit. Je recevrai d'ailleurs jeudi l'écrivain Orly Castelblum, qui vient de sortir un nouveau roman qui s'appelle Textile. Il fait le portrait d'une famille donc qui vit en Israël et qui noie son désespoir dans un confort absolument insupportable. Juste un exemple, la mère qui passe son temps sur le billard, elle se fait faire des opérations esthétiques. Donc on se dit plus superficielle que ça, c'est pas possible. C'est d'abord ce qu'on croit. Et en fait, c'est juste pour être anesthésié, car le temps de l'anesthésie lui permet de zapper mentalement son fils, qui est tireur d'élite dans l'armée. Donc la littérature en dit long, peut-être parfois plus que certains discours politiques. Voilà. Et puis à côté des voix israéliennes, Elisabeth, on a dans la salle d'attente, si j'ose dire, une autre voix, celle de Kebir Ami,
qui est un romancier marocain. Alors, attention, le son est très mauvais, parce que le jour où je l'ai contacté, en fait, il était au Maroc sur son téléphone portable.
C'est une manifestation qui ne devrait pas être une manifestation politique, puisque ce sont les écrivains qui sont à l'honneur. Cependant, il est vrai que ce qui se passe aujourd'hui est quand même assez grave, et c'est à juste titre que c'est dénoncé par l'ensemble du monde, je crois, et il faut aussi rendre justice à ceux qui, à l'intérieur des frontières d'Israël dénoncent ce qui se fait en ce moment, donc ces images, cette horreur qui est effectuée avec un cynisme de la part des dirigeants israéliens, je crois que ça ne laisse indifférent personne et ça ne peut bien sûr pas laisser indifférent les écrivains.
Voilà, un rapide tour de piste pour ce qui est de ce boycott, donc à suivre ou pas. Est-ce que, une dernière question, Elisabeth, vous avez senti chez les auteurs arabes, on va dire ça comme ça, une résistance à s'exprimer? Parce que pour être franc, on les sent sur la retenue, un peu mou du genou. On est étonné, par exemple, de n'avoir pas entendu une voix qui soit pour le boycott.
Mais c'est lié au fait que j'ai cherché à interroger des gens modérés et non pas des gens parlant au nom de diverses institutions. Puis sans doute aussi, c'est très délicat justement quand on est un modéré de faire entendre sa voix ou de dire tout simplement « moi je ne boycotte pas le Salon du Livre » comme le dit Malek Chebel. Mais pour beaucoup, c'est très difficile de le dire sans une forme de peur de se faire accuser, de rejoindre ou comment dire, de trahir, soutenir le clan israélien, oui, donc de trahir son propre clan. Et voilà, et ça ne va pas se terminer de sitôt puisque le Salon du Livre de Turin, consacré à Israël, va ouvrir du 8 au 12 mai, donc très bientôt.
Donc rendez-vous en tout cas en direct chez nous sur RFI pour la Porte de Versailles pour ce Salon du Livre entre le 13 et le 19 mars.
J'ai découvert, dans les années 90, que les femmes maisons étaient des maisons vides. Ça terminait une obsession que j'avais, qui était un désir de collectionner, non seulement de les peindre, non seulement de les faire en trois dimensions, non seulement de les construire, mais de les posséder. Quand je collecte des maisons vides, je me prouve à moi-même que dans toutes ces maisons, personne ne se dispute. C'est ce que j'appelais la zizanie.
La voix de la grande Louise Bourgeois, 96 ans, reine du Centre Pompidou à Paris jusqu'au 2 juin, pour cause de rétrospective. Et puis si vous êtes d'un tempérament plus lascif, j'en connais, pour cause de DVD, Louise Bourgeois, un film de Camille Guichard qui paraît chez Arte Vidéo. Alors Muriel Mahalouf, en entendant parler la grande dame de maison, on soupçonne tout de suite qu'il y a de la maison familiale et de l'enfance dans l'air.
Oui, l'enfance d'ailleurs qui se retrouve dans toute son œuvre. Même aujourd'hui, à 96 ans, Louise Bourgeois se nourrit encore de son enfance. Une enfance assez, on va dire, traumatique. Elle a vécu comme un traumatisme. Une enfance où, dans la maison familiale, régnait la dispute. D'où ce qu'elle vient de dire sur la dispute qui est très beau et qu'elle vient de dire sur les maisons vides qu'elle aime collectionner. Parce qu'une maison sans être humain, évidemment, est une maison sans dispute. C'est une maison où règne le silence. Donc, le couple formé par les parents de Louise Bourgeois se disputait beaucoup. Ses parents étaient dans la rénovation de la tapisserie. Louise Bourgeois était très attachée à sa mère, mais aussi à son père, avec lequel elle a une relation d'amour-haine à la fois. Et pour cause, quand Louise Bourgeois était jeune, son père, quelque peu volage, avait imposé sa maîtresse à la maison familiale.
Pas bien, ça.
Voilà, il s'agissait de Sadie, une gouvernante anglaise, enfin une jeune femme anglaise qui est arrivée comme gouvernante pour apprendre l'anglais aux enfants.
C'était très
bourgeois.
À la mode, ça, à l'époque. Hein.
Tout à fait, il y a plein de films, d'ailleurs, j'ai l'impression, qui parlent de ça. Donc, Sadie, par contre, aimait beaucoup Louise, mais quand la petite apprend la vérité, c'est une double trahison pour elle, celle de son père tant aimé et celle de cette jeune gouvernante à laquelle elle s'est attachée. Donc, quelque part, c'est pour fuir son enfance d'ailleurs que Louise Bourgeois finit par se marier avec un critique d'art américain et s'en va vivre aux États-Unis, à New York, où elle vit toujours. Mais ses proches, son pays lui manque terriblement. Elle l'exprime d'ailleurs à travers des sculptures longilignes en bronze magnifique qu'elle regroupe comme des membres d'une même famille.
Et alors de quelle manière on retrouve à Beaubourg cette obsession pour la maison? Je ne sais pas si on peut parler de maison idéale dans le cas de Louise Bourgeois.
Ben en fait, c'est l'intime qui, on peut dire, est au cœur de son œuvre. Et les maisons sont dans cet intime, dans cet intérieur familial. Et c'est son questionnement sur l'intérieur, d'ailleurs, qui se retrouve dans les femmes maisons dont elle parlait tout à l'heure. Ces sculptures de corps féminin qui se termine par une maison à la place de la tête. Et le corps d'ailleurs est très présent dans sa sexualité féminine, surtout. Elle se représente elle-même recouverte de mamelles, femme en puissance. Mais le phallus est quand même présent. Alors pour Louise Bourgeois, par contre, c'est un élément de fragilité chez l'homme, voire de tendresse, et non pas de puissance comme on aurait tendance à le qualifier. Alors, c'est assez étonnant. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter Louise Bourgeois nous parler de son art dans un autre extrait du DVD.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Et puis alors, qu'est-ce qu'on fait des papillons? Qu'est-ce qu'on fait des mouches? Eh bien, on les conserve et puis quand on est prêt, on s'en sert. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent. Et puis alors, d'un dessin, on en fait une peinture. Et de la peinture, on en fait des sculptures, parce que les sculptures, c'est vraiment la seule chose qui me libère. C'est-à-dire, c'est une réalité plus grande, c'est une réalité tangible. Peut-être ce qu'il y aurait de mieux que la sculpture, ce serait des vraies personnes. Vous comprenez? Non. De rencontrer de vraies personnes, de parler à de vraies personnes, de s'adresser à des vraies personnes. C'est-à-dire d'introduire des visiteurs dans les maisons vides.
La voix presque monumentale de Louise Bourgeois, une voix qui, paraît-il, n'a pas sa langue dans sa poche, ni les yeux, ni l'imagination qu'elle a définitivement monumentale.
Monumentale, oui, mais ses sculptures aussi sont monumentales, Yasmine. Et d'ailleurs, c'est ce qui l'a rendue célèbre. Alors, sa sculpture la plus grande fait 9,7 mètres de hauteur et c'est une araignée. Bon, elle ne se trouve pas dans le centre Pompidou, malheureusement. Il y a d'autres araignées, mais pas celle-ci, pas la plus grande, celle sous l'abdomen, il y a un sac d'œufs en marbre. Elle est assez exceptionnelle.
Alors, donc, il y a la mère araignée, oui. C'est quand même la figure bienveillante. Vous nous avez parlé
absolument,
du père.
Oui, mais je voulais vous parler encore de la mère, parce qu'il y en a des choses à dire sur la mère. La mère qui, pour Louise Bourgeois, représente tellement de choses, le monde. Hein. Et donc, ces araignées, elle les a faites, mais il y en a des répliques et des répliques, des grandes, des petites. D'ailleurs, on en retrouve plusieurs hein, dans le centre Pompidou. Et Louise Bourgeois, quand elle définit l'araignée, elle la définit comme l'amie. Et j'aimerais bien citer cette phrase qu'elle dit de l'araignée, qui est très très belle. Elle dit « Parce que ma meilleure amie était ma mère, comme l'araignée. Elle était aussi intelligente, patiente, propre, utile, raisonnable, indispensable qu'une araignée. » Et je trouve qu'à l'époque où on valorise surtout la production à l'extérieur, le travail à l'extérieur, qu'une grande artiste vienne dire ainsi que la mère est pour elle ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire ce travail à la maison, ce travail d'araignée, ce travail propre et utile, je trouve que c'est une chose formidable, Yasmine.
Alors, est-ce qu'en face de cette figure peut-être idéalisée, est-ce qu'on peut avoir un mot du père? Est-ce que vous avez pu voir cette installation qui s'appelle « The Destruction » of the father.
Absolument, et c'était à la mort de son père d'ailleurs, ce père qu'elle a toujours beaucoup aimé, auquel elle est très attachée. Alors, dans la destruction du père, qui est une œuvre en bois, latex, tissu, tout cela baigné dans une lumière rouge, on a l'impression d'être dans un cabaret, et bien on assiste à la dévoration du père dans une scène cannibale,
une
vengeance. C'est Louise Bourgeois qui dévore son père.
Alors, est-ce que le tout, ces thèmes de la sexualité, de la féminité, de la famille, de la petite enfance, est-ce que le tout est emmailloté dans des matériaux différents?
Très différents. Elle a commencé, oui, avec des matériaux durs, le bronze, le marbre, le bois. Et très vite, Louise Bourgeois s'empare de matériaux fragiles comme la porcelaine, mou, comme le latex, le caoutchouc. On a parlé tout à l'heure de ses mamelles avec lesquelles elle se fabrique un costume en latex, justement. Et le dernier matériau utilisé, c'est du tissu. On revient, la boucle est bouclée aux parents rénovateurs de tapisserie.
Ouf, quand je n'attaque pas, je ne me sens pas vivante. Une phrase de Louise Bourgeois qui lui voit comme un gant, à découvrir donc cette rétrospective qui lui est consacrée à Beaubourg jusqu'au 2 juin. Merci à Florence Ponce, Nicolas Spiga, Charles Battel pour la technique. On se retrouve demain, même endroit.